Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Sophie Tussaud.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h, très bon dimanche.
S'il faut le faire, faut le faire, mais franchement, j'ai pas trop envie de me prendre un truc dans le nez une fois par semaine.
Les autotests arrivent dans les lycées à partir de cette semaine et d'ici la fin de l'année scolaire, il en sera livré 60 millions aux établissements.
C'est un séisme politique à droite, une alliance entre les Républicains et la République en marche pour les régionales. Jean Castex accepte la main tendue de Renaud Muselier.
Avec la fin des 10 km et la possibilité de circuler librement à nouveau dans le pays, les réservations explosent. C'est notre dossier du 8h. Pour en parler, nous serons avec le patron de Weekendesk, Sébastien Venturini.
Et puis le suspense reste entier pour la fin du championnat de Ligue 1, Lille toujours leader, talonné par qui ? Par le PSG.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avant de développer ces titres, dans un quart d'heure, nous recevons donc Frédéric Lenoir. Il vient de publier, je vous le disais, juste après la fin du monde, alors que le déconfinement s'amorce demain avec la fin des restrictions de déplacement en journée.
Comment vivre après une période de pandémie comme celle que l'on est en train de vivre en ce moment ? Cette crise a-t-elle changé la façon d'appréhender la vie ? Romain Houg est allé poser la question à des Parisiens.
Recommencer à profiter de sa liberté quand on veut, comme on veut.
Quelque part, reprendre une vie normale, c'est une manière de se remettre à vivre.
Exactement. C'est aussi simple que ça.
On va entrer dans une autre réalité un peu. Profiter de mes amis et de voir les gens que j'aime.
Faire un peu plus attention aux autres et prendre un petit peu plus soin des autres.
Exactement.
Quel impact aura eu cette crise sur votre vie ?
C'était l'occasion de valoriser ce qui est important pour nous et ce qui est positif pour nous.
Conclusion ?
On savoure beaucoup plus de temps en famille. Donc ça, j'espère vraiment pouvoir le garder par la suite.
Des témoignages recueillis par Romain Houg.
Et on poursuit la discussion avec donc Frédéric Lenoir tout à l'heure à 8h15.
Après les écoles primaires et maternelles la semaine dernière, demain c'est le retour en cours pour les élèves de 4e et de 3e. Ceux des 15 départements les plus touchés seront en demi-jauge, tout comme les lycéens qui auront droit aux autotests dès le 10 mai.
Des autotests qui sont en fait des tests antigéniques simplifiés à réaliser soi-même et qui sont censés prévenir les contaminations en milieu scolaire. Mais si la mise en place de cette nouvelle politique sanitaire se veut massive, elle suscite déjà beaucoup d'interrogations. Damien Mestre.
Et si je vous parle des autotests, ça vous dit un truc ou pas ?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Je sais même pas ce que c'est.
Ces lycéens ne le savent pas encore, mais ils vont pourtant devoir s'y mettre. Un test chaque semaine pour chaque élève, c'est ce que prévoit le protocole à partir du 10 mai. Contraignant, oui, un petit peu, même quand c'est pour la bonne cause.
Si c'est ça pour aller en cours, c'est bien, mais une fois par semaine, c'est un peu beaucoup.
Après, s'il faut le faire, faut le faire, mais franchement, j'ai pas trop envie de me prendre un truc dans le nez une fois par semaine.
Mais le plus difficile reste surtout l'organisation. Il faut des salles dédiées pour réaliser les tests, le personnel pour les encadrer. Du temps en plus des cours. Bref, c'est intenable pour Catherine Neufbecti, secrétaire générale du SGEN CFDT.
Est-ce que le but, c'est de reprendre l'enseignement présentiel pour que les élèves progressent dans les apprentissages et préparent des examens terminaux qui sont pour le moment maintenus ? Ou est-ce qu'on priorise le fait de pouvoir tester les lycéens ? Les deux objectifs sont légitimes, mais les deux en même temps, avec pas plus de personnel pour faire, c'est très compliqué.
Et à défaut de moyens supplémentaires, les syndicats des chefs d'établissement demandent donc à ce que ces tests soient réalisés par les lycéens chez eux, dans leur famille.
Damien Mestre.
8h03, c'est l'un des chapitres politiques qu'Europe 1 a suivi attentivement cette semaine. La réponse positive de la majorité aux Républicains en vue des régionales en région sud, en région PACA, il y aura donc bien une alliance.
À la suite de la proposition cette semaine de Renaud Muselier, le président sortant, Jean Castex annonce au JDD le retrait de la liste La République en marche dans la région sud. Michaël Darmon, on peut dire que c'est clairement un tremblement de terre politique.
Et oui, c'est le résultat d'une longue négociation voulue par Emmanuel Macron qui a souhaité que dans le sud, il y ait cet accord avec la droite dès le premier tour, afin de pouvoir repousser la menace du RN avec un Thierry Mariani, enfant du pays et ex-LR. C'est d'ailleurs ce que les sondages montrent à ce stade. En cas de liste commune, une liste Muselier majorité présidentielle arriverait devant le RN le soir du 20 juin. C'est un tournant qui effectivement préfigure la stratégie pour 2022, créer une droite pro-Macron. C'est aussi un coup de poker. La liste Muselier majorité présidentielle est donc maintenant condamnée à gagner. En attendant, première conséquence de cet accord, la droite implose dans le sud. Pendant le déconfinement, la recomposition politique continue.
Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Et c'est un des sujets que vous allez aborder, bien sûr, tout à l'heure avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Anne Hidalgo, de son côté, a déclenché cette semaine la fureur des restaurateurs en proposant de taxer les terrasses éphémères à Paris afin de les pérenniser.
Une proposition alors que les bars et restaurants sont fermés depuis 6 mois et que la réouverture des terrasses prévue le 19 mai leur permettra de se remettre le pied à l'étrier. Et si les restaurateurs sont furieux, le gouvernement s'oppose à cette mesure, comme l'a expliqué Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de Wendy Bouchard hier soir sur Europe 1.
L'État mobilise des aides massives, le fonds de solidarité, l'activité partielle. On fait tout pour accompagner les restaurateurs dans leur reprise d'activité. On va proposer des formations pour ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Je pense que ça serait responsable que les collectivités soient dans le même état d'esprit. Faisons tout pour permettre à l'activité de repartir. Donc, donner des charges supplémentaires, ça n'est vraiment pas le moment.
Quelle est votre marge de manœuvre pour faire pression face à Anne Hidalgo
aujourd'hui? Écoutez, moi, je n'ai pas de doute qu'Anne Hidalgo va bien se rendre compte que ça n'est pas le moment de taxer les entreprises. On est au contraire là pour les soutenir, pour les aider à repartir, pour protéger les emplois, pour permettre de reprendre une vie la plus normale possible.
La ministre du Travail, Elisabeth Borne, invitée hier soir de Wendy Bouchard sur Europe 1. Demain, c'est la fin de la règle des 10 km. Plus besoin d'attestation, un vent de liberté pour les Français qui n'ont qu'une envie, partir en vacances. Certains ont d'ailleurs commencé à se projeter sur les congés d'été. Beaucoup de gîtes ou d'hôtels voient les réservations reprendre, comme en Alsace où se trouve Mélina Fachin pour Europe 1.
L'horizon s'éclaircit pour Sylvine Pirola. Elle est gérante de l'hôtel-restaurant Le Bouton d'Or à Lapoutroie, qui surplombe la superbe vallée de Kaisersberg et la route des vins. Et depuis quelques jours, son planning se remplit doucement mais sûrement.
On a des réservations dès lundi 3 mai, donc dès la levée de la restriction de ces 10 km. Et donc si on regarde sur le week-end du 8 mai, j'ai quand même 8 chambres sur 10 qui sont réservées. On sent vraiment une impatience et ça vraiment, ça fait chaud au cœur.
Ces clients ont quand même besoin d'être rassurés.
Si on réserve, est-ce qu'on peut annuler sans frais en cas de problème sanitaire? Évidemment, on ne demande même pas d'acompte, un coup de fil et tout s'annule.
Heureusement, la reprise, Sylvine l'avait anticipée.
Devant le flux de personnes qui vont arriver et le coup de fil qu'on va avoir. Et puis moi, je sens qu'il va falloir que je sois disponible pour ma clientèle. Il m'a semblé bon d'embaucher quelqu'un pour m'aider.
Et elle espère surtout que cette fois-ci, ce sera la bonne.
Qu'on nous dise plus dans 3 mois ou dans 6 mois, allez, il y a de nouveau une flambée, il faut de nouveau tout refermer.
Prochaine étape clé pour Sylvine, le 19 mai, la réouverture de la grande terrasse de son restaurant. Lapoutroie, Mélina Fachin, Europe 1.
Et le tourisme, c'est notre dossier du 8h.
Et pour en parler, nous sommes avec le patron de Weekend Desk. Bonjour Sébastien Venturini.
Bonjour.
C'est la fin des 10 km demain, donc déconfinement qui se dessine avec le retour en force, bien sûr, des réservations. Vous aussi, vous avez remarqué que le public revenait sur votre site?
Alors, en effet, l'effet ne s'est pas fait attendre. Depuis la levée des restrictions évoquées ces derniers temps, on enregistre une augmentation de 80% des réservations sur la seule journée d'hier. C'est 122% de plus que le même jour la semaine dernière. Donc oui, ça accélère fort.
Et quelles sont les destinations qui sont privilégiées?
Eh bien, écoutez, sur la destination, tout le territoire est concerné. Si on veut vraiment chercher, on va trouver une différence sur les destinations côtières. Les destinations côtières vont apporter, je pense, beaucoup d'inspiration et d'air pour toutes les personnes qui ont été un peu trop bloquées chez eux.
Et pour quelle date précisément?
Alors là, c'est assez saisissant parce que entre l'annonce des levées de restrictions et après, on a vu un changement qui a été immédiat. Avant l'annonce des restrictions, on avait 70% de nos réservations qui se concentraient sur l'été. Et depuis l'annonce des levées de restrictions évoquées, on est sur 85% des réservations sur du très court terme. Donc, quelle date arrive à tirer son épingle du jeu? Très clairement, l'Ascension, la Pentecôte, c'est en train de vraiment, vraiment se concentrer sur cette zone-là, cette période-là.
Sébastien Venturini, après cette année de pandémie, vous sentez qu'il y a une volonté de se faire plaisir, de renouer avec les beaux jours?
Ah ben, très nettement. On a vu là l'émergence aussi d'un nouveau mode, d'un mode de loisir qui sera bien meilleur, à savoir des durées de séjour entre 1 et 3 jours. C'est 80% des réservations. Et concernant le pouvoir d'achat, on voit que les gens ont vraiment envie de se faire plus plaisir avec 15% de dépenses en plus. Donc, un peu plus longtemps et un peu plus de bien-être, avec de la gastronomie et du bien-être.
Eh bien, c'est très clair. Merci Sébastien Venturini, patron de Weekend Desk, d'avoir été avec nous dans le journal de 8h.
Merci à vous.
8h09, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, Sophie, une annonce coup de tonnerre, la mort du terroriste le plus recherché au monde.
Information de la matinée, la mort d'Oussama Ben Laden.
Barack Obama vient de le confirmer à l'instant depuis la Maison Blanche.
Tonight, the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Oussama Ben Laden a été tué et son corps a été récupéré. L'une des informations les plus importantes, évidemment, de l'histoire moderne des États-Unis, alors qu'au moment où je vous parle, des dizaines et des dizaines de personnes se rassemblent spontanément devant les grilles de la Maison Blanche pour crier leur joie. Oussama Ben Laden a été tué.
Extrait de la matinale d'Europe 1. Le 2 mai 2011, presque 10 ans après les attentats du World Trade Center, avec notre journaliste correspondant aux États-Unis à l'époque, Jean-Philippe Ballas. Cela fait donc maintenant 10 ans qu'Oussama Ben Laden a été tué dans une maison au nord du Pakistan. Et Didier François, vous êtes le spécialiste des questions internationales d'Europe 1. Ce 2 mai 2011, un commando des forces spéciales américaines fait tomber la tête pensante d'Al-Qaïda.
Absolument. L'opération Trident de Neptune qui vient boucler une très longue traque menée par la CIA, dont les agents ont assemblé patiemment, pièce par pièce, cet immense puzzle qui les mène à découvrir la cache où se terrait Osama Ben Laden et à l'éliminer. Coup fatal pour Al-Qaïda, qu'Osama Ben Laden avait conçu comme le commandement central du djihad mondial, unifiant sous sa houlette les principaux mouvements islamistes venus combattre aux côtés des Moudjahidines afghans contre les soviétiques. Et Ben Laden a utilisé deux atouts dont il disposait en abondance pour s'imposer en chef de l'international djihadiste, du charisme et de l'argent. Puis il va stupéfier le monde avec les attentats du 11 septembre 2001 qui seront à la fois l'apogée d'Al-Qaïda et son champ du cygne, car la riposte américaine à ces attaques va contraindre ses cadres à la clandestinité dans des zones isolées à partir desquelles il leur est impossible de piloter une organisation planétaire. C'était vrai pour Ben Laden, terré dans sa retraite pakistanaise. Ça l'est plus encore pour son successeur, Ayman al-Zawahiri, qui pour sauver l'organisation doit accepter une forte décentralisation. Dans les faits, aujourd'hui, les filiales ou les franchises d'Al-Qaïda dans différentes régions, Sahel, Levant ou la péninsule arabique, sont pratiquement autonomes.
Et pour autant, Didier, la menace djihadiste est toujours là.
Oui, et pour deux raisons. La première, c'est que la guerre en Irak a profondément déstabilisé le Proche-Orient et donné un nouveau souffle au mouvement islamiste au moment même où il en avait le plus besoin. La seconde, c'est que l'affaiblissement d'Al-Qaïda a ouvert un espace au courant concurrent et particulièrement à l'État islamique qui a largement renouvelé l'offre djihadiste. Ce qui ne va pas d'ailleurs toujours sans friction, on le voit en ce moment au Sahel, où les affrontements entre les deux organisations font autant de victimes dans leur rang que la lutte antiterroriste.
Didier François, spécialiste des questions internationales d'Europe 1.
8h12, le sport avec le foot, 35e journée de Ligue 1. Le suspense sur le vainqueur du championnat reste entier à 3 journées de la fin.
Lille garde la tête du classement après sa victoire 2-0 sur Nice. Mais les nordistes sont talonnés à 1 point par le PSG qui s'est imposé face à Lens. 2-1 des Parisiens qui maintiennent le rythme. Julien Froment.
La victoire a été longue à se dessiner, mais pas de stars blessées et le leader Lille toujours à distance respectable. Contrat rempli pour le Paris Saint-Germain. L'entraîneur Mauricio Pochettino a apprécié l'état d'esprit.
J'ai beaucoup aimé le caractère de l'équipe, sa capacité de résilience, sa capacité de lutter aussi contre le fait qu'après le match face à Manchester City, c'est toujours dangereux de jouer une équipe comme Lens. C'est ça que j'ai aimé le plus, au-delà du fait que la prestation de mon équipe était très professionnelle.
Et pas le temps de souffler, le Paris Saint-Germain est déjà tourné vers sa demi-finale retour de la Ligue des Champions, mardi contre Manchester City. Mauricio Pochettino et son staff ont désormais 2 jours devant eux pour préparer cette rencontre décisive. Bonne nouvelle à noter, Kylian Mbappé absent hier car blessé au mollet va mieux. L'attaquant français devrait être du voyage en Angleterre.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud qui revient pour le dernier journal de cette matinale tout à l'heure à 9h.